Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Auditeurs et auditrices de la web radio du Rage, voix de jeunes, bonjour Azul Filawan. La semaine d'octobre 88 continue, donc à chaque fois on reçoit sur le plateau de la web radio un invité du monde politique, associatif, syndical, des journalistes, justement pour débattre de cet événement historique qui est les événements d'octobre 88, 30 ans après. Qu'en est-il aujourd'hui des acquis démocratiques et d'autres questions? Pour cela, nous avons l'honneur de recevoir une autre fois M. Hossein Bilaloufi. Bonjour Hossein et merci d'avoir accepté notre invitation une autre fois pour aborder cet événement.
Azoul, salam alaikum. Et merci à vous pour cette invitation, cette énième invitation. C'est toujours un plaisir de...
Voilà, pour les auditeurs et auditrices, Hossein Bilaloufi, c'est un journaliste, écrivain, et il est aussi cadre du PST. Il est auteur de 12 essais. Donc le premier, c'est le Grand Moyen-Orient, guerre ou paix, qui parle de la région du Grand Moyen-Orient, les conflits que vit, les guerres. Et aussi, il a fait un autre essai, il a parlé de l'Algérie, et intitulé la démocratie en Algérie, réforme ou révolution. Je pense que ce deuxième essai, il a une relation avec ce que nous allons discuter aujourd'hui autour de cet événement. Donc ça c'est pour les autres auteurs. Personnellement je les incite à lire ces deux livres, ces deux essais. Hossein, la question qu'on pose toujours à nos invités sur octobre 88, comment vous avez vécu octobre 88, quel est le souvenir que vous avez sur octobre 88 autant qu'événement de l'époque, le jour J, les jours de déroulement de ces événements du 5 au 10?
Oui. Disons que déjà au départ, avant même le 5 octobre, il y avait un climat assez spécial avec des bruits, des informations qui couraient venant de la zone industrielle de Rouiba où il y avait des grèves et qui annonçaient des manifestations sur Alger pour la période du 4-5 octobre. Donc il y avait déjà un climat assez spécial à l'époque. Par contre, c'est le lendemain qu'on a découvert, disons le lendemain matin, après la nuit d'échauffourée entre les manifestants et la police, que bon, personnellement j'ai découvert à Beb Loued les traces des affrontements, c'est-à-dire les pavés, les débuts de barricades, les voitures qui avaient été touchées. Donc ensuite, ça a été dans la journée des manifestations de jeunes collégiens, de jeunes lycéens dans le centre d'Alger qui ont déferlé comme ça. Et autrement, ensuite, les autres jours ont été marqués surtout par les informations sur la répression, sur les morts, les arrestations, les cas de torture. Et y compris là où je travaillais, il y avait deux fonctionnaires, deux collègues qui avaient été arrêtés, qui avaient été torturés. Donc voilà un peu, les premiers jours d'octobre. Ensuite, ça a été le grand mouvement de grève qui a touché des tas d'établissements, d'usines, d'établissements, et qui a changé complètement le visage d'Alger. C'est-à-dire on se promenait dans les rues, il y avait des établissements en grève avec des pancartes dehors, il y avait une ébullition et un mouvement qui était en train de naître et qui allait imposer dans la pratique le droit de grève dans le secteur public.
Oui. Vous, Hossein, en tant que journaliste et aussi en tant que militant, depuis 1988 à ce jour, le débat, ça veut dire il y a encore la discussion sur la théorie du complot. Ça veut dire il y a ceux qui disent que ces gens-là sont sortis dans la rue parce que c'est le pouvoir, un clan au pouvoir qui les a fait sortir. Donc qu'en est-il réellement de la manipulation? Est-ce que nous avons en face un pouvoir où il y a la possibilité de faire sortir le peuple dans la rue sans que le peuple réellement, ça veut dire, le décide, hein? Parce qu'il y a une situation, il y a un marasme social qui le pousse, il se fait juste un élément déclencheur.
Oui. C'est-à-dire que je pense que les thèses qui expliquent le 5 octobre uniquement par la spontanéité de la révolte ou au contraire par une manipulation, à mon avis, sont unilatérales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer les deux. Il n'y a pas de mouvement chimiquement pur. Dans un mouvement, il y a de tout, des choses et leur contraire, et c'est le produit d'une dynamique. Or, moi, l'analyse que je fais, c'est que l'explosion est le produit de la convergence de deux processus qui ont convergé durant toute la décennie 80 et qui ont fusionné pour provoquer l'explosion d'octobre. Ces deux processus, c'est quoi ? C'est d'une part les luttes sociales, parce que toute la décennie 80 a été marquée par d'importantes luttes. Octobre 88 n'est pas né comme ça dans un ciel serein. C'est une énième explosion qui a commencé en 80, avec le mouvement d'avril 80, 80 à Bjaïa, 82 les lycéens et à Mostaganem, Oran et à Alger, 84 la Casbah, 86 les révoltes Sétif et de Constantine, et j'en oublie, donc sans parler des
crèves, les organisations des clandestines
du Chouada, etc., d'enfants de Chouada. Donc il y a eu toute une série de luttes qui faisait que, effectivement, les conditions étaient remplies pour une explosion. Ensuite, parallèlement à ça, il y avait au sein du régime une crise. Une crise qui divisait les membres du régime entre partisans du statu quo et partisans d'une ouverture libérale. L'arrivée de Chedli au pouvoir a marqué la victoire des libéraux par rapport aux partisans du maintien du projet étatique qui était à l'œuvre depuis les années 60-70. Mais en même temps, cette victoire n'a pas été totale. Et on le voit, il y avait des affrontements au sein du régime, il y avait des tentatives de la part de Chedli d'enrichir la charte nationale en enlevant les références au socialisme, en remplaçant ça par des références à l'islam, la propriété privée, etc. Et il y avait des résistances de la part de ce qu'on pourrait appeler l'aile bureaucratique, le parti, l'UGTA, etc. Enfin, les directions, je parle de ces appareils-là. Donc, au sein du régime, il y avait un blocage. Et donc, l'analyse que je fais, c'est que les courants libéraux ont été, ont utilisé le mécontentement populaire...
Pour faire passer leur réforme.
Pour faire sauter le verrou. Pour faire sauter le verrou. Et d'ailleurs, après, on voit que, comment ça s'appelle, Sadia a été remis en cause, et quelques mois après, la nouvelle constitution est venue à sanctionner cette victoire des libéraux par rapport à l'aile bureaucratique, avec non seulement le multipartisme, mais la fin de toute référence à l'État, au rôle de l'État dans l'économie. Donc c'était une constitution qui n'était plus une constitution programme, mais une constitution, très, très réduite. Et donc, il y a eu les deux, parce qu'il y a des témoignages qui montrent qu'il y a des voitures banalisées qui ont incité des jeunes soit à sortir des collèges et des lycées, soit éventuellement à s'attaquer à des établissements. Donc, mais c'est pas pour ça que c'est un mouvement
que les Algériens sont sortis dans les rues.
Voilà, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a eu des manifestations et des révoltes avant. Mais comme ça n'avait pas atteint ce stade au niveau du régime, il n'y avait pas eu d'utilisation, donc c'était resté quand même limité. Là, il y a eu les deux, je crois. Et c'est la fusion entre les deux, qu'il ne faut pas analyser de manière policière en disant c'est la conspiration, etc. Non, c'est les contradictions au sein du régime qui amènent un régime à un moment donné à utiliser la rue pour résoudre ses propres contradictions. C'est dans l'ordre des choses, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est pas une première dans l'histoire. Et ça ne sera certainement pas une dernière. Voilà un peu la lecture que je fais.
Parlons des revendications, les slogans de l'époque. Beaucoup plus, c'est des slogans d'ordre social et tout. Mm-hmm. Mais la réponse, la réponse du pouvoir en place, Chedli et son gouvernement, il est venu avec une réforme politique. Ça veut dire de libérer le champ politique et tout. Parlons un peu. C'est la relation entre les revendications prônées par les manifestants et la réponse du gouvernement à l'époque par cette constitution.
Oui.
Est-ce que c'est compatible? Est-ce que ça peut répondre aux attentes et aux besoins des manifestants, des Algériens d'une manière générale?
Oui, je pense qu'il y a quelque part une identité d'intérêt conjoncturel entre le pouvoir et les revendications populaires. Conjoncturel, parce que on a vu que le pouvoir ensuite est revenu sur tous les acquis d'octobre. Donc son projet, c'est pas la démocratie. Le projet du pouvoir, c'était la libéralisation économique. C'est ça, et l'intégration de l'économie algérienne dans l'économie capitaliste mondiale. C'est ça l'objectif de fond.
Ouvrir le marché économique algérien.
Ouvrir le marché, en finir avec toute perspective de gestion étatique de l'économie, de projet de développement souverain, etc. Mais simplement, pour battre encore une fois les partisans du statu quo, eh ben, il a utilisé la revendication démocratique. Comme il a utilisé aussi l'islamisme. Parce que le pouvoir a instrumentalisé l'islamisme pendant toutes les années 70, enfin fin des années 70 et début et la décennie 80, pour justement travailler la société et justifier, faire passer dans les consciences que la propriété privée était légitime, qu'elle était légitimée par la religion. Donc pour mener une lutte idéologique contre les idées d'égalité sociale, de justice sociale, de socialisme, etc. Donc le pouvoir, il avait plusieurs cordes à son arc. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y avait un cabinet masqué qui organisait tout ça. Il y avait aussi des contradictions à sein du pouvoir. Certains étaient proches des islamistes, d'autres étaient proches de... Donc ça chacun pouvait défendre. Mais globalement, ils ont utilisé les deux. Et donc, effectivement, le volet démocratique a été utilisé par le pouvoir, pas d'un seul coup, parce qu'il y avait le congrès du FLN qui s'est tenu en décembre 1988, et à l'époque, il était question de créer des tendances à l'intérieur du FLN. Il n'était pas question de créer le multipartisme. Il s'agissait, en gros, il y aurait eu un courant islamisant, un courant nationaliste au milieu et un courant démocratisant ou démocratique à l'autre bord. Et comme il y a eu des blocages, c'est la présidence qui a envoyé directement le projet de constitution sans passer par le parti, au-dessus du parti. Donc on voit bien qu'il y avait à l'intérieur du régime des luttes, etc. Et donc la question démocratique, elle a abouti à ce moment-là à la constitution qui prévoyait la liberté d'expression, les libertés démocratiques, une véritable ouverture démocratique, une transition démocratique, c'était clair. Et donc de ce point de vue-là, il y avait un lien avec le mouvement populaire qui, lui, au départ, n'avait pas de revendications ni explicites, démocratiques. C'est une explosion qui posait des problèmes sociaux, mais des problèmes sociaux qui sont démocratiques, et qui posait aussi la question de l'autoritarisme du pouvoir, de la répression dans les commissariats, de l'autorité, le régime du parti unique. Et puis très vite, ça a été repris par les partis, les syndicats qui ont contesté la torture, les mouvements, les associations qui ont tout de suite se sont mobilisées sur la question de la torture, donc qui ont pris le relais de la révolte, et qui ont commencé à lui donner un contenu politique, démocratique, etc. Et les grèves, à partir de la deuxième quinzaine d'octobre, c'est la multiplication des grèves qui posait aussi la question des libertés démocratiques, etc. Et là, les partis de la clandestins sont sortis de la clandestinité, ont organisé des meetings avant même février 89, et l'adoption de la Constitution. Donc voilà, on voit que aux deux pôles, il y a eu le mouvement par en bas et le mouvement par en haut qui avait un intérêt tactiquement à un moment.
Parlons, vous avez parlé des partis démocratiques juste après le mouvement octobre 88, mais on a constaté que juste après le déclenchement de ce mouvement, l'encadrement de ce mouvement, bon, le pouvoir, ça veut dire c'est un mouvement qui a échappé pratiquement à l'ensemble. Mais les islamistes, à la fin, ils ont pu mettre quand même la main, ils ont récupéré, contrairement au courant démocratique, malgré qu'ils étaient en tant que militants, ouais, dans la clandestinité. Est-ce que ça, selon vous, ça veut dire c'est tactique de la part aussi du pouvoir en place, de favoriser les islamistes? Et au réside aussi dans le manque d'organisation à l'époque du courant démocratique.
Oui, ce qu'il faut voir, c'est que les islamistes bénéficiait d'une situation des plus favorables. C'est-à-dire que c'est un courant qui était implanté à l'échelle nationale, qui pouvait s'appuyer sur le réseau des mosquées, sur le discours religieux,
facile à recevoir et à consommer.
Qui recevait un soutien d'une partie du pouvoir et qui recevait aussi le soutien de l'extérieur, de l'Arabie saoudite, des régimes du Moyen-Orient, et donc qui avait donc des moyens financiers importants, qui avait donc réussi à se mobiliser au cours des années 80 avec des rassemblements importants, et donc il avait une longueur d'avance sur le reste des forces d'opposition qui n'étaient pas capables, qui n'ont pas été capables de mobiliser et d'offrir une perspective alternative parce que ça demandait sans doute plus de temps, plus de...
Oui. Revenons maintenant sur les acquis d'octobre 88. Donc, il y a la Constitution, elle est là, elle a reconnu le pluralisme politique, syndical et associatif. Et aujourd'hui, 30 ans, on voit que ces acquis, ça commence à les perdre. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui ces acquis il y a le risque de disparaître, de perdre les espaces publics, les libertés. Comment vous évaluez ce retrait, ce recul en matière des acquis d'octobre 88?
Ce qu'il faut voir, c'est que la démocratie ne peut pas être octroyée par le pouvoir.
C'est
une question de rapport de force entre le pouvoir et l'opposition. Parce que si le pouvoir octroyait la démocratie, il se suiciderait en tant que pouvoir.
Oui.
Ça voudrait dire qu'il accepterait que la souveraineté revienne véritablement au peuple et qu'il ne monopolise plus la souveraineté.
Donc lui, il est dans sa logique.
Il est dans sa logique. Et simplement, octobre 88 a ouvert une transition démocratique. Donc qui dit transition, dit lutte entre l'ancien et le nouveau. L'ancien, c'est le maintien des institutions en place. On proclame le multipartisme. Mais le président reste en place, le gouvernement reste en place, l'APN reste en place, les institutions restent en place. Les gens qui ont torturé en 88 sont amnistiés par Chadli. Les institutions de répression ne sont pas démocratisées, elles restent en place. Donc ça, c'est l'ancien. En même temps, il y a une véritable ouverture. On a dit le multipartisme, la liberté d'expression, de manifestation, d'édition, de grève, les libertés syndicales, etc., etc., dans lequel s'engouffre la population, les mouvements politiques, etc. Et donc il y a une lutte entre les deux. Et en fonction du rapport de force, la conjoncture change et ça avance ou ça recule. Donc de 88 jusqu'à 90, 91, on voit une phase ascendante. Le problème, c'est que cette transition démocratique masquait, moi, ce que j'ai appelé un processus de fascisation, c'est-à-dire la venue d'un mouvement à base populaire qui menaçait le pouvoir, non pas pour la libération du peuple algérien, mais pour lui imposer une nouvelle dictature à visage théocratique. Non plus militaire ou policier, mais à visage théocratique. Et donc, à partir de 91-92, s'amorce ce reflux. Et à partir de 92 et le déclenchement de la guerre civile, on le voit, les mouvements périclitent. Les mouvements de femmes disparaissent, les mouvements étudiants régressent, etc. Et la question démocratique elle-même, elle passe au second plan. C'est-à-dire la question, c'est plus de savoir si on va vers la démocratie ou pas. Déjà en 91, on le voyait aux élections, c'était est-ce que on va vers une république islamique ou est-ce qu'on garde le système en place? Et si on va dans une république islamique, est-ce qu'il y aura des libertés? Est-ce que même les partis islamistes autres que le FIS pourront continuer à fonctionner? Et le FIS avait répondu en disant que même Hamas, etc., ne pouvait pas continuer à exister parce qu'il divisait les musulmans. Donc on voyait la logique. Et donc toute la décennie 90, elle est marquée par cette lutte-là. C'est-à-dire la question démocratique, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, mais elle passe vraiment au second plan. Ce n'est qu'en 2001, avec d'une part le mouvement populaire et d'autre part la grève générale des travailleurs du secteur des hydrocarbures, l'énergie et des hydrocarbures contre les premiers projets de loi Khalil, etc., qu'on voit un retour de la question démocratique. Et ensuite, une multitude d'explosions sociales dans tous les villages du pays, toutes les villes du pays, etc. Mais surtout, le mouvement de Kabylie, le mouvement populaire de 2001. Malheureusement, c'est un mouvement qui va avorter. C'est-à-dire qu'il va... C'est-à-dire qu'une fois que la question de l'islamisme a été réglée, c'est-à-dire le fils a été vaincu, la question démocratique est revenue au devant de la scène, ce qui était tout à fait naturel. Et donc le pouvoir s'est retrouvé face à la revendication sociale, politique, démocratique, etc. Malheureusement, bon, ben, il a encore réussi.
La gestion de ce mouvement a été un échec.
Voilà, et il a réussi à imposer. À récupérer. Et donc depuis, nouvelle phase de repli, de recul, etc. Jusqu'à 2011. 2011, il y a un mouvement social, il y a une explosion suivie d'un mouvement social, beaucoup de grèves. Le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait ? Il remet en cause l'état d'urgence, il abroge l'état d'urgence, il cède sur bon nombre de revendications sociales, salariales, etc. Il laisse les manifestations se dérouler, y compris à Alger, pendant un certain temps. Il annonce une révision constitutionnelle, etc., avec un dialogue et tout. Et puis ensuite, en fonction encore une fois du rapport de force, il arrive à diviser ses adversaires, à satisfaire les revendications sociales, mais pas politiques. Donc, il gagne encore une dizaine d'années, jusqu'à pratiquement deux jours. Donc, on voit que c'est vraiment une question de rapport de force. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un mouvement populaire qui est porteur, soit explicitement, soit implicitement, pas toujours consciemment, mais qui pose la question démocratique et sociale. Et puis de l'autre côté, un pouvoir qui gère en fonction de...
Justement, sur ça, on constate que toujours c'est le pouvoir qui gagne. Parce qu'il y a face à lui une classe politique, je ne sais pas, est-ce qu'il il n'a pas la capacité de donner une offre politique sérieuse. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des propositions de sortie de crise, des petits regroupements de partis politiques, des petites initiatives, mais c'est des initiatives qui ne partent pas, et que, ça veut dire sur le terrain, ils ne mobilisent pas, même ils n'ont pas un avenir, ça veut dire une vision à moyen et long terme. Donc, comment expliquez-vous, si je peux dire, l'échec de ces initiatives qu'on a entendu depuis des années, des regroupements de partis politiques, des initiatives venues de différents partis politiques?
Ce qu'on peut dire, c'est que la population n'est pas résignée. Les luttes, elles n'ont jamais cessé, avec une intensité qui varie selon les conjonctures, etc. Mais si on prend par exemple la situation d'aujourd'hui, on s'aperçoit que y a des grèves, il y a des mouvements à la base de la population qui réclament leurs droits, qui imposent. Le plus emblématique, à mon sens, étant celui de Ouargla, qui pose la question d'un développement alternatif, qui pose la question de la souveraineté nationale, la question de la justice sociale, etc. Bien sûr, sans une perspective politique, etc. Mais qui quand même montre qu'il y a une avancée qualitative.
En matière de revendication, même en matière aussi d'organisation.
Et d'organisation, en impliquant la population, en l'organisant par quartier, par village, etc., une organisation permanente. C'est un véritable mouvement social. Et à mon avis, l'intérêt de ce mouvement-là, c'est que contrairement aux partis politiques, il a compris qu'il n'y avait pas d'alternative à court terme.
Donc ils négocient tout de suite leurs besoins, leurs revendications.
Ils négocient tout de suite et surtout ils construisent sur le moyen et le long terme. Parce qu'un rapport de force, ça se construit. C'est comme si je vous disais, il faut libérer la Palestine. Oui, il faut libérer la Palestine, mais il faut la libérer en construisant un rapport de force. Tant qu'Israël est fort, tant que les États-Unis sont forts, etc. Un rapport de force, ça se construit. Et la construction, c'est quoi ? C'est qu'il faut organiser les masses. Il faut que ce soit les masses qui soient organisées. Et pour que les masses s'organisent, c'est pas en leur disant non au cinquième mandat ou suivez-nous pour les libertés démocratiques. C'est en soutenant leurs revendications, en partant de leurs revendications. Or, les revendications, quelles sont-elles ? Eh bien, ce sont des revendications qu'on peut analyser comme des revendications contre le libéralisme, contre l'autoritarisme et contre l'ouverture débridée du pays à la domination étrangère. Et il se trouve qu'une bonne partie des forces d'opposition, justement, n'ont pas ça comme programme. Et elles se contentent de parler simplement de la question du pouvoir, de la démocratie, etc., sans poser ces questions-là. Et c'est pour ça que la population ne se reconnaît pas dans ces mouvements. Ça, je parle des mouvements libéraux, ultralibéraux, etc. Il y a aussi des courants identitaires qui posent le problème, soit en termes religieux, soit en termes régionalistes. Et en oubliant qu'à l'intérieur d'une région ou à l'intérieur d'une même religion, les gens n'ont pas les mêmes intérêts, et que donc vouloir à tout prix masquer ces intérêts contradictoires ne permet pas une mobilisation, et qui parfois même intègrent leur agenda, enfin leur perspective à un agenda extérieur, pratiquement impérialiste, qui vise à faire éclater les États de la région. Donc ces courants identitaires sont incapables d'apporter une réponse justement à notre problème, qui est pourquoi le mouvement démocratique a échoué. C'est-à-dire il y a une tendance chez certains courants à se replier sur des questions identitaires, au lieu de continuer le combat démocratique, d'analyser pourquoi on n'a pas réussi jusqu'à présent. Ce n'est pas quelque chose de figé, c'est-à-dire qu'on a échoué, mais tôt ou tard, le 1er novembre 1954 n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y a eu des échecs avant, il y a eu des tas de luttes, des tas de massacres, des tas de révoltes qui ont été réprimées. Mais ça a fini par donner quelque chose, parce que le mouvement national a labouré le terrain pendant 30 ans. Il a travaillé, il était aux côtés des masses, il était avec eux dans leurs revendications, leurs luttes quotidiennes. Le problème, c'est qu'on a une dichotomie. La preuve, c'est que quand des gens appellent à manifester, il n'y a personne qui vient.
Oui.
Et ils se retrouvent réprimés. Par contre, quand la population de Ouargla sort, eh ben, c'est des milliers de personnes. Pourquoi ? Parce que c'est des revendications de la population. Et à Aïn Salah, c'est pareil. Et ils obtiennent des résultats. Ils arrivent à empêcher l'augmentation de prix du gaz et de l'électricité dans la région, dans l'énergie, etc. Donc, on voit bien que le problème, c'est qu'il manque une offre politique. Et là, c'est les forces de gauche qui devraient le faire. Les forces de gauche, parce qu'elles partagent ces revendications. C'est le cœur de leur problème. L'anti-impérialisme, la souveraineté nationale, la justice sociale, l'égalité sociale, la démocratie, etc. Ce sont les forces de gauche qui est couronnée par une assemblée constituante. C'est des mots d'ordre que portent des partis comme le PT, comme le FFS, comme le PSD et sans doute d'autres. Et donc, ces forces-là, il va falloir qu'un jour ou l'autre, elles arrivent à constituer un pôle, une convergence, pour faire ce travail d'apporter un projet, non pas qu'ils auraient élaboré dans leur tête wahdom, mais qui est l'expression des revendications populaires, en lui donnant une perspective politique et en faisant une jonction avec ce mouvement-là. Donc en le soutenant, tout en respectant son autonomie, sans essayer de le récupérer, en respectant son autonomie, mais en allant avec lui dans les luttes quotidiennes et en montrant la voie, c'est-à-dire qu'il faut une alternative nationale. C'est bien de se battre dans le sud.
Ça veut dire faire une projection nationale.
Voilà, c'est bien. Il faut commencer par là. Les habitants de Ouargla, de Aïn Salah, se battent sur les revendications qui sont les leurs. Comme ceux de Aoukas ou d'autres régions se battent sur les revendications qui les concernent. Mais on voit bien qu'il y a une jonction objective entre les deux. C'est les mêmes types de revendications, même si elles sont adaptées au contexte local. La question, c'est de construire cette convergence et de la soutenir réellement pour aller vers un projet alternatif, c'est-à-dire national, démocratique, social, voilà.
Est-ce que le moment n'est pas arrivé pour trouver ces jonctions, ces synergies entre ces dynamiques déjà politiques et aussi entre ces dynamiques sociales qui existent un peu au niveau national, éparpillées, surtout dans le contexte actuel, parce qu'on voit que la situation quand même, elle est alarmante.
Oui. Donc, mais là, je le dis, il faut construire. C'est-à-dire que il faut se garder de la croyance qu'il y aurait une possibilité de raccourci. C'est-à-dire que si ce travail n'est pas fait, On arriverait par un coup d'entourloupe où là le pouvoir va s'effondrer, où là il va y avoir une explosion sociale généralisée qui va imposer le changement, etc. S'il y a une explosion sociale généralisée actuellement, ça risque de faire bien un 2e octobre ou bien une répression ou bien un éclatement de l'État à la Syrienne ou à la Libye. Personnellement, je ne vois pas en ça une perspective.
Donc il faut la construction moyen
terme. Il faut la construction, il faut que les gens s'organisent, défendent leurs intérêts, partent de leurs intérêts, pas d'un projet comme ça abstrait, mais partent de leurs revendications, de leurs intérêts, convergent, se consolident. Par exemple, il faudrait empêcher que n'arrive au mouvement de Ouargla ou là du Sud ce qui a pu arriver au mouvement de 2001 en Kabylie. C'est-à-dire que ça dégénère dans tous les sens, que ça soit manipulé d'un côté, que ça soit cassé de l'autre, et qu'on brise. Parce qu'un courant comme le MAC, par exemple, est le produit de l'échec de 2001. Et donc, il faut éviter que, parce que ça emporte, ça a comme conséquence un échec, une démoralisation, et des possibilités de fuite en avant qui ne résolvent rien. C'est-à-dire ni le MAC n'offre une perspective aujourd'hui, ni le mouvement de Ouled Sahra, etc. C'est-à-dire la question, elle est nationale au niveau de l'Algérie. Il faut consolider les mouvements là où ils sont, les faire converger, mouvement syndical avec les mouvements populaires de ce type, etc., le mouvement démocratique, et travailler à une perspective politique. En même temps, dernier point, il faut mener une lutte idéologique dans la société, contre les idées individualistes, contre le consumérisme, contre les idées réactionnaires, contre la misogynie, contre toutes ces idées, parce que nos idées, elles sont minoritaires dans la société. Il faut le reconnaître. C'est-à-dire, si on ne reconnaît pas que la question démocratique n'est pas hégémonique dans la société, on se trompe. C'est-à-dire, il y a une bataille culturelle à mener parallèlement au combat politique et en lien avec le combat politique et social, une bataille pour l'hégémonie culturelle dans la société.
Une autre question sur un autre volet très important qui est la presse, étant journaliste. Oui. On constate qu'il y a le pluralisme, on dit qu'il y a la liberté de la presse, plusieurs journaux, on parle des 120 titres, je ne sais pas combien, les chaînes de télévision privées, mais quand même il y a le monopole de l'État sur la presse déjà publique, sur les journaux privés. Donc la presse qui est considérée comme un quatrième pouvoir, réellement. Aujourd'hui en Algérie, ce qu'on constate ces derniers temps, qu'il ne joue pas vraiment son rôle en tant que quatrième pouvoir, qui assure l'information, et il est rentré un peu dans le jeu de cette équation intérêt entre éditeurs, entre patrons et pouvoir public.
Ben, déjà, ce qu'on constate, c'est que même à l'échelle mondiale, où la presse est censée être un quatrième pouvoir, en fait, elle est intégrée au dispositif de domination. La presse, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en France, etc., elle est concentrée entre les mains d'une minorité de gens qui sont intégrés au système de domination. Et donc, elle matraque, on voit comment elle matraque l'opinion publique, y compris dans ces pays dits démocratiques. La presse matraque l'opinion publique. Là, je voyais récemment encore, et rien qu'en Espagne, il y a eu des manifestations contre le fait que les médias font preuve de partialité au profit du Parti populaire de droite contre tous les autres partis en termes d'audience dans les passages télévision, télévisés, dans les journaux, etc. Donc c'est une question qui est déjà mondiale. Et c'est pour ça que la question qui se pose, c'est on veut nous enfermer dans une dichotomie, ou bien vous avez la presse publique, ou bien vous avez la presse privée. Si vous avez la presse publique, elle n'est pas démocratique. Si vous avez la presse privée, elle est démocratique. Or, moi, je pense qu'il faut sortir de ce piège. C'est-à-dire, c'est vrai que l'existence d'une presse privée ouvre des espaces. Encore faut-il que cette presse privée ne soit pas, en fait, au service du pouvoir, comme l'El Mahal ou un certain nombre de
surtout quand on lit ça avec la publicité.
Voilà. Et je pense qu'il faut... Et c'est pour ça que je parlais de bataille culturelle pour l'hégémonie. Il faut se battre, à mon avis, sur une question essentielle. C'est que l'information n'est pas une marchandise. L'information n'est pas une marchandise. Et la liberté d'expression ne signifie pas la possibilité pour des oligarques de posséder des journaux, des télés, des radios, etc., etc. C'est pas ça le projet qui est le nôtre. C'est-à-dire, je comprends que les libéraux soient sur cette ligne-là. Leur objet pour eux, la presse libre, c'est la presse privée. Je crois que les gens de gauche, en tout cas c'est l'idée que je défends, on doit défendre une autre version, une autre vision de la presse. La presse, c'est pas une marchandise, elle doit être au service des citoyens. Ça veut dire qu'il faut multiplier. Il faut,
service public.
De... Voilà. Déconnecter l'argent de les médias. Il n'y a pas de raison qu'un individu possède une télévision, des journaux, des télés, etc. Et donc, ils forment l'opinion publique. Parce que,
oui, parce que quand on détient les médias, on détient l'opinion publique.
Voilà,
et quand on détient l'opinion publique, on détient le pouvoir.
Exactement. Alors que, pour ça que je disais, c'est le même dispositif. Alors que dans les années 60, 70, 80, il y avait une multitude de journaux. Au temps du Parti Unique, chaque section syndicale d'Algérie, chaque fédération, chaque union locale avait son bulletin. Où elle faisait part de ses revendications, où il y avait des articles, où il y avait des prises de position, etc. Donc c'était une presse qui partait de la base populaire. Et c'est ça qu'il faut renforcer. C'est-à-dire, il faut que le peuple s'exprime à travers de multiples canaux, etc. Il faut effectivement se battre au niveau institutionnel pour que les médias publics ne soient pas monopolisés par le pouvoir, mais soient au service également de la population. Et je crois qu'il faut remettre en cause l'idée de ce lien entre l'argent et les médias. Je pense qu'il est illégitime.
Non, même s'il y a le privé, l'État il doit avoir le contrôle. Donc, on doit être le régulateur entre...
Oui, c'est une position. Moi, ma position,
ça veut dire
c'est que...
Ça veut dire même pour s'il y a une presse privée, elle ne doit pas avoir toute la liberté de faire ce qu'il veut. Donc, il y a l'État ici qui contrôle tout.
Mais c'est là où on voit le lien entre les questions... politique, les questions de liberté et la situation économique et sociale. C'est-à-dire que quand on est dans un projet libéral, eh ben, forcément, dans le projet libéral, il y a la privatisation de la presse. Et on voit la lutte pour supprimer les médias publics et pour utiliser la presse au service du privé en l'achetant financièrement. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux.
Merci Hossein. On est arrivé à la fin de cet entretien. Si vous avez un message à moi à dire à la fin de cette émission, à l'occasion de cet quand même événement important, le 30e anniversaire d'octobre 88, qui oui. On le célèbre quand même, on le commémore dans une période et contexte national un peu délicat. Donc un message à transmettre.
Ouais, ce que je peux... dire en conclusion, c'est que il faut continuer à travailler, à se battre et à s'organiser en partant des réalités, des besoins de la population. Parce que c'est le peuple qui va changer les choses. C'est pas une petite élite coupée du peuple. C'est le peuple qui va changer la situation. Et pour que le peuple change la situation, il faut défendre les intérêts de ce peuple.
Merci Hossein. Voilà. Effectivement, il faut défendre les intérêts du peuple. Sans l'adhésion du peuple, sans l'implication du peuple, c'est très difficile d'y arriver au changement souhaité, instaurer un État démocratique et social tel qu'il a été l'un des objectifs de nos aînés qui ont combattu le colonialisme pour que nous puissions aujourd'hui vivre libre dans notre pays, l'Algérie. Merci une autre fois. Auditeurs et auditrices, merci à vous aussi. Au revoir.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.